La bibliothèque en voie de route continue à rencontrer les divers intervenants de cette riche journée organisée ici aux Salines d'Arc-et-Senans. Et là, c'est un petit temps d'échange avec Corinne Plancher. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous avez tout à l'heure, on peut dire, inauguré officiellement la présentation d'un film qui a trouvé sa place dans la scénographie du musée ici. Donc, ce film s'intitule Les Salines Royales, une histoire de sel.
Oui, c'est ça.
Et donc, peut-être, comme ça, brûle pour point, décrire un petit peu quel était le souhait, votre démarche par rapport à ce film. Pour compléter justement, je crois que c'était un peu ça votre souhait, c'était de compléter et de donner à voir ce que n'est pas facilement à voir pour le visiteur, c'est-à-dire le lien entre ce bâtiment et la fabrication et l'acheminement du sel.
Tout à fait. En fait, c'est un film de commande qui a été passé par appel d'offres public, donc la société pour laquelle je travaille a remporté. Et en fait, l'enjeu du film était d'expliquer aux gens qui viennent ici, d'une part que c'était une usine, parce que quand on voit la qualité du bâti architectural, on imagine bien un monument, mais on a du mal à imaginer que c'était vraiment une usine. Partant de là, qu'est-ce qu'on faisait dans cette usine? On faisait du sel. Or, on est loin de la mer, il n'y a pas de mine de sel à proximité, donc tout ça paraissait un peu mystérieux au public. Et assez technique, donc difficilement explicable simplement et un peu long par les conférenciers habituels. Et pour les gens qui n'ont pas envie de suivre des visites guidées, voilà, ils repartaient un peu frustrés. C'était vraiment ce qui ressortait des retours du public. Donc la commande était très claire, il fallait expliquer comment on faisait, comment la saline était née, comment l'idée était née et comment on fabriquait ce sel à partir d'eau salée, donc qui était amenée depuis Salins-les-Bains, qui est à une quinzaine de kilomètres d'ici, par un somoduc, donc une espèce de conduite, une double conduite en bois qui transportait de l'eau salée sur 20 km pour l'amener ici. Alors pourquoi ici? Parce qu'il y avait une énorme forêt qui existe toujours d'ailleurs à côté, qui est la forêt de Chaux. Et autour de Salins-les-Bains, donc comme son nom l'indique, c'était une terre de salines. Et ils avaient tellement exploité la forêt pour faire ce fameux sel qu'ils n'avaient plus d'arbres en gros autour du Salin, et ça leur coûtait très cher de faire venir du bois de loin. Donc ils se sont dit, plutôt que d'aller chercher du bois très loin, on va transporter l'eau à côté du bois. C'est comme ça qu'est née la saline royale d'Arc-et-Senans. Parce que, donc, il faut finir à expliquer que le sel ignigène qui était fabriqué ici et qui était fabriqué à Salins, c'est un sel qui est fabriqué à partir d'eau salée, qui vient de résurgence. C'est de l'eau qui s'est chargée en sel en circulant sous terre. Donc il y a des résurgences de sources salées qui sont assez peu salées. Et donc pour extraire le sel, on fait cuire l'eau, c'est-à-dire on met de l'eau dans des grandes poêles et on met le feu dessous. Et une fois que l'eau s'évapore, il reste le sel. C'est un peu comme les marais salants, sauf qu'au lieu que ce soit l'action du soleil, c'est l'action du feu directement.
Très bien, merci pour ces précisions. Et alors peut-être pour compléter votre présentation, donc vous avez cité votre société de production, donc Drôle de Tram, et donc vous œuvrez, on va dire, dans plusieurs champs, le domaine des productions audiovisuelles réalisées pour des musées, donc c'est le cas aujourd'hui, également dans un champ plutôt de réalisation de documentaires pour la télé, dans le champ de l'histoire et de la politique, et enfin un dernier champ très actuel qui est celui du transmédia et de la réalisation de web documentaires avec peut-être un web documentaire dont vous pourrez nous dire un mot notamment que vous avez réalisé avec la société Picta Nouveau. Mais moi j'aimerais, avant peut-être que vous évoquiez ceci, que vous nous disiez un mot d'un futur espace qui va ouvrir dans la région, qui est dédié à la mémoire et à l'archive de Paul-Émile Victor, l'explorateur. Donc c'est un lieu qui, comme ça, je pense, semble très intéressant, qui a mis peut-être un peu de temps à aboutir, mais dont les collections semblent passionnantes. Alors, vous êtes intervenu là aussi sur ce bâtiment.
Alors, on va intervenir, puisque nous sommes une société de production, nous réalisons des films et des programmes multimédia. Et donc, cet espace sera situé à Prémanon, à côté des Rousses. Et alors, il n'est pas complètement dédié, il est en partie dédié à la mémoire de Paul-Émile Victor avec sa documentation et parrainé par son fils. Mais il est surtout, c'est surtout un espace de réflexion sur les pôles, donc Antarctique et Arctique. D'une part, avec une vocation pédagogique, c'est-à-dire apprendre à différencier ces deux pôles entre celui qui est un océan, donc l'Arctique, et celui qui est un continent, l'Antarctique. Donc, ce n'est pas les mêmes glaces, ce n'est pas les mêmes problématiques. Apprendre à reconnaître les espèces de l'un de l'autre, apprendre à bien cerner les problématiques avec le réchauffement climatique, qu'est-ce qui va se passer dans un cas et dans l'autre, et sensibiliser aussi le public évidemment à ces enjeux qui sont assez importants, voire terrifiants, du réchauffement climatique. Alors le but du jeu n'est pas de faire flipper tout le monde, hein, bien évidemment, mais de bien expliquer aux gens ce que sont ces deux continents et ce que signifie pour eux le réchauffement climatique. C'est quand même, voilà. Et donc ça devrait ouvrir fin octobre, mais bon.
Voilà.
Pour l'instant, c'est fin octobre.
Voilà. Très bien. Et ben voilà, peut-être voilà donc un ultime mot sur ce web documentaire que j'évoquais tout à l'heure, réalisé avec Pictanovo, puisque ça c'est un autre aspect des activités que vous menez.
Oui, alors ce qui fait le lien entre toutes ces activités qui peuvent apparaître comme un peu disparates, c'est notre intérêt pour les contenus. C'est-à-dire que on est une société de production, mais aussi ce qui nous intéresse, c'est on est très curieuses les unes et les autres, et donc on explore tout un tas de sujets. Et là, ce projet qui s'appelle 700 000, donc c'est ce que je n'ai pas réalisé moi-même, hein, mais c'est la société qui l'a produit, explore la relation entre l'archéologie et l'histoire au travers de l'archéologie de la guerre de 14. Parce que en fait, tous les jours, on retrouve des objets, des squelettes, avec les fouilles préventives menées par l'INRAP. C'est un projet que nous avons mené en coproduction avec l'INRAP, avec la Bourse Estim d'Univers Sciences et avec Pictanovo pour la région Hauts-de-France maintenant, pour la partie post-production. Donc c'est un projet qui pour nous est très intéressant. Enfin, le web documentaire allie à la fois notre savoir-faire en termes de documentaire et en termes de contenu, et puis les nouvelles technologies et l'exploration de nouvelles formes d'expression qui sont le transmédia, tout ce qui peut être interactif. Et donc là, aujourd'hui, le documentaire est en ligne, donc l'adresse est www.700000.fr et on est en train de travailler à une version tablette et smartphone, parce que pour l'instant le site n'est pas responsive, il va l'être bientôt, et on va aussi travailler à une version vraiment spécifiquement en tablette pour les musées, une application qui pourra tourner en circuit fermé en musée. Qui n'existe pas pour l'instant, c'est uniquement un projet web.
D'accord. Alors peut-être une ultime question, parce que c'est vrai que les idées et les évocations me viennent au fil de la discussion. Comme vous avez une longue expérience justement du domaine des musées, et puis que ces petits entretiens, ils sont assez informels, mais dans l'idée, ils visent à essayer de construire une sorte de bibliothèque idéale, à la fois de références diverses, des ouvrages, des revues, de la musique lorsque nous rencontrons un musicien. Mais vous, dans votre domaine, est-ce qu'il y aurait peut-être un musée que vous jugez exemplaire, je ne sais pas, mais qui vous a marqué, soit dans votre cadre professionnel ou tout simplement dans le cadre d'une visite en France ou à l'étranger, et qui serait particulièrement intéressant d'étudier, en tout cas de connaître par rapport à sa façon d'intégrer les technologies dans la muséographie. C'est une question très vaste, mais est-ce qu'il y a comme ça un exemple récent ou
peut-être... Récemment, nous avons travaillé pour la réouverture du Musée de l'Homme à Paris, où il y a beaucoup de multimédia, avec des formes très diverses, mais dans l'ensemble relativement classiques. Et là, actuellement, nous sommes en train de finaliser un projet. Alors, c'est un projet de théâtre, de théâtre virtuel, puisque ce sont des décors sur lesquels sont projetés des scènes qui racontent l'histoire de l'art pariétal. Et ça, ça sera à l'ASCO 4. Ça devrait ouvrir à l'automne aussi. Et là, je pense, alors je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est en cours de construction, mais là, je pense que sur le plan du multimédia, de l'interactivité, des niveaux de visite, des niveaux de lecture pour tout plein de publics, je pense que ça sera un échantillonnage assez extraordinaire entre les compagnons de visite, la réalité augmentée, les bornes interactives, les installations immersives ou auxquelles on peut participer à plusieurs. Je pense que ce sera vraiment un événement de ce point de vue-là, un grand événement. Sinon, il ne faut pas se leurrer, dans les musées français, en tout cas, le budget alloué au multimédia est souvent relativement faible, donc on a souvent essentiellement des bornes interactives didactiques dans lesquelles on essaye de caser un peu tous les contenus qu'on ne peut pas laisser caser ailleurs, une espèce de somme comme ça de corpus d'informations. Mais les musées qui ont une vraie réflexion sur ce que c'est que le multimédia, le transmédia, l'interactivité, c'est encore assez confidentiel. Et je pense que c'est aussi parce que la culture des conservateurs de musées n'est pas encore sur ce mode-là. Enfin, je sais que nous, on est intervenu à l'école des conservateurs de Paris. On était assez étonnés de leur manque de connaissances sur l'audiovisuel, sur le multimédia, sur les nouvelles technologies. Après, c'est pas du tout une critique dans le sens où leur socle de connaissances, il est ailleurs, il est dans l'histoire de l'art. Voilà, donc je pense qu'ils peuvent pas tout apprendre en même temps. Mais peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des équipes un peu plus pluridisciplinaires dans les musées pour que ce socle de connaissances trouve une expression dans des nouvelles technologies. Parce que je pense qu'on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas être génial partout et tout connaître, mais il faut apprendre à travailler tous ensemble.
Très bien, merci beaucoup Corinne d'avoir pris ce petit temps et d'avoir pu comme ça discuter un peu à brûle pour point, mais sur divers thèmes fort intéressants et qui nous ramènent de toute façon aux sources et ressources. Et c'est l'objectif de ce petit blog, de collecter des références diverses et variées. Encore merci.
Merci, c'est moi.